je pense que rien ne vaut le bouche à oreille. Si des amis nous recommandent, on a envie d'écouter son ami, on a envie d'écouter sa famille, on voit les photos, et je pense que le bouche à oreille, ça marche très bien parce qu'on a confiance en la personne qui nous conseille en fait ce photographe.
Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. En route pour le 4e épisode de cette 12e saison. Et je suis très heureux de vous retrouver, et c'est chouette parce que j'ai trouvé, le bon rythme de croisière à raison d'une nouvelle interview toutes les deux semaines. Ça me laisse le temps de faire un bon montage, de trouver un nouvel invité ou une nouvelle invitée, de faire une bonne interview, et vous de pouvoir écouter et surtout de bien digérer tous les bons conseils délivrés par mes invités et parfois par moi-même aussi. D'ailleurs, si mon podcast vous plaît, eh bien le meilleur moyen de le faire savoir, c'est tout simplement d'en parler autour de vous, de partager sur Instagram à vos proches, et juste un clic peut souvent suffire. Pour ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas et qui écouteraient pour la première fois mon émission, alors déjà bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver dans mon podcast et je suis Régis Moscardini et j'interview un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent. Que ce soit dans le cadre d'une reconversion par exemple ou juste pour dans un premier temps se payer son matos, arrondir ses fins de mois. Donc je lui pose plein de questions pour que vous puissiez prendre de son expérience, vous en inspirer et j'espère concrétiser votre projet à votre tour. Je reçois aujourd'hui la photographe Léa Sirotto. Léa, qui est de formation Community Manager, c'est-à-dire qu'elle gère la communication d'entreprise sur Internet à travers les réseaux sociaux, est une photographe de talent. Elle a su développer un style bien à elle avec des sujets animaliers pourtant souvent très communs. C'est tout son parcours photo qu'elle va nous décrire, mais pas seulement. Son amour pour la nature est très puissant en elle et sa production photo tourne bien sûr autour de ça. Elle a subi récemment ce qu'elle appelle une désillusion professionnelle, ce qui l'a amenée à créer et développer son business photo. Shooting et vente de tirages sont au programme et elle va nous parler de tout son processus de création. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Léa.
Bonjour Régis, bonjour tout le monde.
Comment tu vas ?
Eh ben, très bien, et toi ?
Eh ben, je te remercie, super bien. Il fait très beau en Auvergne ou Puy-en-Velay, vers chez toi. Où tu es, Léa ? Dans quel coin ?
Alors, j'habite sur Paris. Il fait beau aussi. C'est un petit peu nuageux, mais ça va. Et c'est un quartier très sympa, très agréable. C'est pavé, il y a des petites maisons colorées. C'est très sympa.
Nickel. Donc, Paris. Alors, on va en parler justement par rapport à ton activité photo. Il y a plein de choses à dire. Parisien et ton activité photographique, elle est. Ben, on pourrait dire de premier abord que c'est pas forcément très compatible parce que tu es la photographie nature, hein, beaucoup. Mmh. Et voilà, on va bien sûr en reparler. Mais juste avant, je voudrais aborder avec toi une question un petit peu directe. Beaucoup de nos confrères, consoeurs photographes, en fait, Léa, quand il s'agit de choisir un pseudo ou un nom sur Insta ou même sur son site internet, oui. Tu sais, on dit souvent nom, prénom, puis photographe ou photographie derrière, quelque chose comme ça. Et toi, tu as choisi parole de Léa. Bah, c'est étonnant parce que finalement, le mot parole pour une photographe ou un photographe, tu vois, c'est pas la première chose qui viendrait à l'esprit. Donc, pourquoi ce choix de parole de Léa pour une photographe?
Alors effectivement, c'est assez étonnant comme choix. C'est un nom que j'ai eu il y a quelques années. En fait, rien à voir avec la photographie. Je m'étais prise de passion pour la lecture, en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas écrire des avis sur mes lectures. Et j'avais décidé de créer un blog littéraire que j'ai nommé Parole de Léa, après quelques petites recherches. Et c'est un monde que je connaissais absolument pas, le monde de la blogosphère littéraire. En fait, il y a énormément de blogs là-dessus et de booktubeurs, comme on dit.
Des booktubeurs
carrément, c'est des long. Grosses chaînes YouTube où il y a des personnes qui parlent pour dire leurs avis sur des livres en fait. Donc moi je me suis concentrée sur la partie blog, donc je l'ai appelée Parole de Léa. Et donc je l'ai fait à peu près pendant 3 ans et demi où j'avais des partenariats avec des maisons d'édition notamment pour écrire aussi des chroniques. Et quand je me suis prise après de passion pour la photographie, j'ai toujours aimé la passion, mais comme ça, quand ça a vraiment pris de l'ampleur dans ma vie. J'ai gardé le compte Instagram qui s'appelait Parole de Léa. J'avais pas voulu le changer parce que j'avais déjà une petite communauté, alors c'était rien du tout, j'avais peut-être 200-300 personnes dessus, mais je me suis dit que j'allais le laisser, quitte à changer le nom un jour. Et plusieurs fois, je me suis interrogée, est-ce que je change de nom, Parole de Léa pour la photo, c'est pas terrible, etc. Et une personne m'a dit, mais ce que tu peux faire, c'est associer des textes à tes photos, comme je le faisais un peu déjà. Et en fait, je me suis dit, c'est pas bête, je fais de la photo, j'aime quand c'est engagé, j'aime transmettre un message derrière mes photos, donc je vais garder Parole de Léa pour ça.
Eh ben, alors moi je trouve que franchement, même je connaissais pas l'histoire derrière ça. Maintenant c'est très clair. Et finalement il y a une espèce de logique. Mais je trouve que même sans savoir cette histoire-là, eh bien je trouve que ça sonne super bien. Parole de Léa. Déjà je trouve que au niveau de la sonorité, tu as deux L. Alors toi justement littéraire. Donc je sais pas comment ça s'appelle quand il y a des
oui
des,
peut-être. Alors, je suis pas une littéraire. J'écrivais juste des avis sur les livres.
Un enchaînement. Mais
bon. Je m'y connais pas plus que ça.
Ouais, mais bon, t'es un... d'accord. Donc voilà, mais en tout cas, parole de Léa, je trouve que ça sonne bien, c'est assez fluide. Et puis ça titille un peu la curiosité. Bon, maintenant, tu nous as un petit peu dévoilé l'envers du décor, mais je trouve que c'est vraiment intéressant comme comme non. Et puis quelque part, quand on est photographe, finalement, on communique. C'est une forme de communication la photographie. Donc c'est pas décollant du tout que de dire parole. Alors que tu communiques par la photographie, finalement, il y a beaucoup de sens derrière. Alors, je te propose de tester pour la première fois sur le podcast une petite série de questions-réponses super rapides. T'as pas de chance,
on verra, oui.
Toi. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Attends, non, mais je suis pas sympa. Hein. Non, en fait, l'idée, c'est de faire une espèce de CV, tu vois, un petit peu un CV audio.
D'accord.
Comme ça, pour que nos auditeurs puissent mieux te connaître en quelques secondes. En gros, je te pose une question, genre un peu un mot-clé, derrière tu me réponds mais de manière très rapide, et puis après on développe tranquillement, mais juste voilà, un petit mode CV comme ça pour mieux te connaître. Donc juste, alors prénom, ça Léa, on le sait, voilà, c'est
oui,
bon.
Oui, c'est vrai.
Quoi que ça aurait pu être un pseudo aussi, hein, tu sais, tout à fait possible. Tout à fait
31
possible.
Ans.
Par exemple, exactement. Âge.
Harry.
Ok, donc dans quel coin tu habites?
Alors j'ai grandi en banlieue parisienne, à Rueil dans le 92. Dans la communication et
marketing. La formation initiale, c'est quoi?
Alors, j'ai fait un bac STG
genre
marketing,
de commerce,
un BTS communication, après une licence, enfin, c'est plutôt un bachelor marketing et communication, pour finir sur un master parcours web, manager des systèmes d'information.
Alors, pour l'instant, tu habites à Paris, tu as fait des études de com, donc on n'est pas trop dans la photographie nature pour l'instant, hein, donc rien à voir, mais justement, c'est encore plus intéressant et j'ai vraiment envie de savoir, et je pense que ceux qui nous écoutent aussi, mais comment t'as fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives à la photographie nature? Allez, tes trois ou deux derniers métiers, dont celui actuellement.
En fait,
actuellement.
J'ai fait tous mes stages et alternances en tant que social media manager ou community manager, hein, y a plein de termes. Et mon métier actuel, c'est responsable réseaux sociaux et e-réputation. Pour l'instant, je suis au chômage suite à une désillusion professionnelle depuis quelques mois. On en reparlera plus tard, mais c'est aussi pour ça que je me mets un peu plus à la photo au niveau pro.
Ouais. Donc, le mot, alors c'est marrant parce que j'avais jamais trop entendu ces deux mots-là associés.
Ça.
Désillusion professionnelle, donc
on
je ne suis pas trompé,
oui,
hein, c'est bien ce que
bien
tu as
sûr.
Dit. Hein. Bon, on en parlera. Voilà, on va continuer un petit peu sur le mot de CV, puis ce sera effectivement un point dont on pourra discuter.
Alors,
vraiment
la photo
les
et les
tes
animaux.
Tes deux plus grosses passions. Allez, un peu de parcours photographe, si tu veux bien, Léa. Bon, pas la peine de scroller longtemps sur ta page Insta, hein, Parole de Léa, pour comprendre que tu portes beaucoup d'amour à la nature. Bon, t'es pas la seule, on est beaucoup à avoir ça, hein. Mais
oui.
Comment, allez, manière un peu brutale, mais comment tu expliques cet attachement à elle, à la nature?
Alors, en fait, j'ai toujours aimé les animaux, la nature, en prendre soin. J'ai vécu dans un environnement aussi qui était favorable à ça. Ma famille m'a toujours sensibilisée à la nature, tous mes proches. Donc, ça facilite aussi les choses. J'aime la nature et les animaux, ça a toujours été en moi en fait. Et petit à petit, il y a eu plein de déclics en moi qui ont fait que mon esprit s'est ouvert, je me suis ouvert à des débats, j'ai commencé à réfléchir par moi-même et me dire, la planète, elle est en grande détresse, les animaux sont en grande détresse, souffrent énormément. Et en fait, je pense que c'est pendant mes cours en BTS communication où j'ai fait de la philosophie et de la sociologie. Où j'avais un professeur qui était extraordinaire, qui s'appelle Thibaut de Saint-Maurice. Je ne sais pas si
carrément.
Tu le connais.
Ah bah, mais oui, bien sûr, je le connais. Il passe sur France Inter.
Oui, tout à fait.
Il passe dans l'émission d'Ali Rebéi qui s'appelle Grand bien vous fasse, que j'écoute moi maintenant, mais je n'écoutais pas trop, régulièrement il y a quelques temps. Et il a une chronique. Et franchement, ouais. je me dis quand je l'écoute, s'il y a un prof de philo que j'aurais voulu avoir, c'était lui, quoi. Sa voix, je sais même pas quoi il ressemble, hein, mais sa voix, sa façon de parler, les thèmes abordés, comment il les vulgarise, démocratise, c'est fabuleux, quoi. Et tu l'as eu comme prof?
Je l'ai eu comme professeur en philosophie et en sociologie. Et voilà, c'était juste incroyable. Et c'est lui qui m'a fait aimer tout cet univers-là, parce que j'adore aussi la philosophie, bon, même si j'en lis pas trop, etc. J'ai pas forcément le temps. Donc Thibaut de Saint-Maurice, c'est vraiment quelqu'un de fabuleux. C'est lui qui m'a fait aimer la philosophie, la sociologie, qui m'a permis de creuser tous ces sujets. Et je pense que c'est à partir de là où j'ai eu un déclic, où j'ai commencé à réfléchir par moi-même, à m'ouvrir à des débats. Et voilà, en fait, on se pose tellement plein de questions pendant ces cours. C'est juste extraordinaire et petit à petit, on creuse les sujets. Puis au fil des ans, des études aussi, on prend de la maturité. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience que il y avait beaucoup, beaucoup de souffrance sur Terre. Et bon, moi, comme j'ai un amour particulier pour les animaux, ça m'a vraiment brisé le cœur. Puis après, on entend parler des associations, on en parle. Donc du coup, les personnes nous apprennent plein de choses, etc. Puis ensuite, on voit les photographes animaliers, on voit des personnes engagées, on voit des assos qui se donnent énormément pour cela. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire de la photo animalière et d'écrire des textes associés à mes images pour transmettre toute cette sensibilité, cette émotion et avoir une démarche engagée en fait dans mon travail.
En fait, j'ai l'impression qu'une personne comme Thibaut de Saint-Maurice, il va agir sur des personnes comme toi, et je pense que t'as pas été la seule à être marquée par son enseignement. Et toi particulièrement, de ce que je comprends ou ce que j'essaie d'interpréter, et peut-être que je me trompe, tu me diras, mais en gros, tu as mûri en toi pendant toutes ces années, ta jeunesse, ton adolescence, en étant jeune adulte, tu as nourri cet amour pour la nature sans trop peut-être le formaliser. Et un type comme Thibaut de Saint-Maurice va être là pour c'est pas un déclencheur, je pense. C'est pas une prise de conscience parce que tu l'as déjà en toi. C'est juste qu'il va il va activer. C'est une espèce de lui. Ou lui et peut-être d'autres aussi, ce sont des activateurs, quoi, des personnes qui vont te marquer, qui vont activer ce que tu as déjà en toi.
Oui, tout à fait. En fait, lui m'a aidé à ouvrir mon esprit. Mmh. Et avec les années, j'ai découvert plus en détail la photo, le milieu animalier, même si ça avait toujours été en moi. J'ai quand même creusé tous ces sujets-là parce que quand on est adolescent, on se cherche aussi énormément. Enfin, moi, j'ai toujours été passionnée par plein de choses et on ne sait plus sur quoi se concentrer vraiment. On est submergé par l'information, par tellement de domaines intéressants. Et au final, ce qui en est ressorti, c'est la photo et les animaux. Et quelque chose qui m'a aussi beaucoup marquée, je ne sais pas du tout si ça a été un déclencheur ou pas, mais alors que j'allais travailler pendant 3 ans, j'étais en agence avec plein de community managers, c'était une agence de community management en fait. À la sortie du métro, en rentrant chez moi, il y avait une personne sans abri en fait sur les escaliers qui parlait à beaucoup de monde, il me parlait également beaucoup et d'un seul coup, il m'a dit un jour qu'il défendait la cause animale. Il m'a montré l'association L214, il m'a montré des vidéos, des photos. Enfin, il m'a dit d'aller voir des vidéos parce que il n'avait pas de téléphone. Et là, il m'a dit oui, moi je vais militer avec L214. On va casser les laboratoires. Je ne sais plus trop ce qu'il me racontait, si c'était vrai ou pas. Mais je me suis dit waouh, mais c'est génial. Moi aussi, je vais agir comme ça pour la cause animale. Et je pense que là, encore une fois, j'ai eu un déclic encore plus fort.
Je trouve ça assez fascinant des personnes comme Thibaut de Saint-Maurice. Il y en a plein d'autres qui peuvent marquer comme ça le parcours de quelqu'un. Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être une expérience, un enseignement qui t'a, toi, marqué pendant un de ces cours, tu vois, quelque chose qui t'a vraiment soufflé une nouvelle énergie, où tu en es ressorti de ce cours-là en te disant, il y a quelque chose de, il y a un avant et un après, quoi. Est-ce que tu aurais un souvenir comme ça?
Alors, franchement, je n'ai pas vraiment de souvenir. J'ai juste une impression que j'avais adoré ces cours et qu'on l'écoutait tous énormément. J'ai pas forcément de souvenir comme ça. Je sais que, aussi, ce qui a pu aider, c'est que j'étais une bonne élève dans ces cours, je pense. Et ça motive, hein, forcément. On parlait, par exemple, de liberté. Il enseignait aussi, en prenant des exemples, les séries, parce qu'il a écrit philosophie en série. Et c'est quelque chose, je trouve ça incroyable pour un professeur.
Des séries télé, hein?
Séries télé. Il a écrit philosophie en série il y a longtemps maintenant. Et je trouve ça juste génial de faire ça à des personnes d'une vingtaine d'années.
Ouais,
carrément. Au moins, il captive les élèves. C'est trop cool.
Bien sûr. Je pensais, tu vois, comme quoi ce podcast, il est rigolo parce que finalement, on arrive à parler de Thibaut de Saint-Maurice, de philosophie.
Oui, en plus.
Or qu'on devrait parler de photo. Justement, on va parler de photographie.
Oui. Mais avant,
dans ton compte Instagram, j'y reviens parce que c'est ta porte d'entrée finalement dans ton univers, une de tes portes d'entrée. Il y a une association qui s'appelle Faune Alfort. Et le nom, c'est le nom du compte Insta, c'est Vivre Faune Alfort. Donc, tu es vraiment active là-dessus. C'est quoi cette association? Elle consiste en quoi? Est-ce que c'est toi qui l'as créée? C'est quoi un petit peu son histoire?
Alors, Faunalfort a été créé en 1993 par Jean-François Courreau, qui est un vétérinaire à la retraite, qui était vétérinaire à l'époque. Il y avait une branche, en fait, de faune sauvage à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort. Et petit à petit, il a réussi à en créer une association. Et en fait, Faunalfort, c'est le plus grand centre de sauvegarde de la faune sauvage de France actuellement, notamment en termes d'animaux recueillis. En 2021, on compte à peu près 7000 animaux recueillis. Voilà, donc ils sont
donc,
situés...
Pour situer, Alfort, c'est en région parisienne. Il y a une école de vétérinaire qui est très connue. Donc c'est dans ce coin-là. Ok, ça marche. C'est sud de Paris, hein, à peu près, je crois, pour situer.
Tout à fait.
Ouais. D'accord.
À peu près. Du coup, il y a l'école vétérinaire qui prête des locaux à Faunalfort et il y a aussi le Val-de-Marne qui prête des locaux à Mandres-les-Roses pour le centre de réhabilitation. Donc, il y a un centre de soins et un centre de réhabilitation pour ensuite relâcher les animaux. Et en fait, Faunalfort, c'est une association qui est formidable. Ils sont 4 soigneurs, une vétérinaire, puis après, il y a des personnes saisonnières, on va dire, plus la directrice de l'association, une chargée de com', enfin, ils sont vraiment en manque de personnel. Et lors d'une visite, je me suis dit, ce serait super de pouvoir les aider. En fait, avec mon conjoint Jonathan, qui fait aussi de la photo d'ailleurs, on a été visiter ce centre, on a rencontré le président et la directrice. Ça nous a brisé le cœur tellement qu'ils avaient besoin d'aide. Et moi, je leur ai proposé, en fait, de faire un reportage photo pour eux, pour leur communication, de créer des comptes réseaux sociaux associés sur Facebook et Instagram, parce que je suis aussi responsable réseaux sociaux, mon conjoint est commercial. On peut faire des petites choses pour aider leur visibilité tout en étant bénévole. Et du coup, est venue l'idée de faire un reportage photo pour eux. Donc du coup, ça peut être sur des situations atypiques, ça peut être sur des animaux dits communs, comme les pigeons et les hérissons, qui sont les animaux les plus recueillis au centre. Donc on a décidé de créer Vivre Faunalfort. On leur a présenté plusieurs noms, en fait, de comptes. Et Vivre Faunalfort, c'est ce qui leur a semblé le plus pertinent, parce qu'il faut vivre Faunalfort, c'est quelque chose de très très intense. Et ce reportage photo, je me suis spoilée toute seule, ce reportage photo, en fait, c'est dans le but d'éditer un livre photo. Voilà.
Ok. Donc, si je comprends, pardon, juste pour bien situer le truc, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une association qui est une des plus grosses de France en termes de gestion de vie sauvage, quoi, et sauvegarde de vie sauvage. Et cette association-là n'avait pas de compte Instagram, n'avait pas de moyen de communication.
Je me suis mal exprimée. En fait, Faunalfort sont très actifs sur Instagram et Facebook. Okay. Ils ont pas mal de personnes qui les suivent. Et nous, à côté, on a décidé de créer Vivre Faunalfort, dédié au reportage photo.
Et donc là, tu mets tes talents de photographe, de communicante, de gestionnaire de réseau au service de l'association. C'est un moyen pour toi, actif, de participer à la sauvegarde de la vie sauvage?
Oui, tout à fait. Je trouve que c'est très important de donner de la visibilité aux associations. Elles sont très, très nombreuses en France. Faunalfort appartient d'ailleurs à un réseau qui est présidé par Jean-François Courreau, qui a créé Faunalfort. Et toutes ces associations-là, elles ont un manque de financement terrible par rapport au nombre d'animaux recueillis, par rapport au personnel. Et c'est important pour moi de leur donner de la visibilité à travers des photos pour montrer l'humain, le savoir-faire et montrer tout ce travail qui est réalisé, parce que c'est juste énorme. Il y en a qui finissent parfois à 4 heures du matin parce qu'il y a trop d'animaux qui sont recueillis.
Ouais. Ah non, c'est effectivement. Alors, il y a plein de façons de faire, différentes pour pouvoir participer à son niveau selon ses moyens, de temps, d'argent, au soutien de ces associations. On peut donner de l'argent, effectivement, des dons, mais aussi du temps, comme toi. Et je trouve ça intéressant, cette autre façon de faire. Comment on fait? Je reviens un petit peu sur ton côté. Ton côté parisienne, citadine, on va dire. Comment on fait pour aller photographier la nature, alors que tu es parisienne, intramuros, tu as vécu en région parisienne, ce qui, comme ça, de premier abord, ne paraît pas être super compatible avec la photographie animalière. En gros, techniquement, comment on fait quoi pour trouver des sujets à photographier?
Alors, c'est très compliqué, effectivement, la photo sur Paris, mais il y a un champ des possibles énorme, tout ce qui est faune citadine. Donc déjà, les oiseaux dits communs, les pigeons, les corneilles, tous les corvidés, les oiseaux d'eau au bord des étangs, on trouve énormément d'espèces. J'ai un petit parc à côté de chez moi que je citerai pas parce que bon, j'aime pas trop donner les lieux. Il y a énormément d'espèces, on peut y voir des rapaces. Et je sais qu'il y a un épervier qui a été vu, un renard, il y a le martin pêcheur. Sacré martin pêcheur qui m'a aussi donné envie de faire plus de photos animalières et plein de passereaux, plein d'oiseaux. Donc en fait, il y a énormément de choses, cormorants, hérons. Et en fait, à Paris, les oiseaux ne sont pas farouches.
Je pense par exemple, tu parlais des corneilles par exemple. Malgré tout, j'imagine quand même que elles sont pas faciles à approcher ces corneilles là parce qu'elles sont quand même en ville comme ailleurs, elles doivent être quand même vraiment vraiment embêtées par les activités humaines qui les aiment pas beaucoup quoi.
Moi, pas tant que ça.
D'accord.
Elles se font bien la vie parisienne, au milieu citadin. C'est ça aussi Paris, les grandes villes. Hein, les pigeons, les corneilles sont assez proches de l'homme, notamment parce qu'en fait, les gens sont sales, laissent traîner plein de déchets et nourrissent aussi les oiseaux, en fait. Notamment au bord de points d'eau, il y a beaucoup de regroupements d'espèces. Hein, les oies, les canards, les corneilles, les pigeons, tout le monde est regroupé. Donc voilà, c'est du coup, ça les rend un peu farouches.
Donc,
elles viennent réclamer de la nourriture.
Donc, la photographie animalière sauvage mais en ville, quelque part, déjà est possible, tu viens de le dire, et paraît être même un peu plus facile, parce que, bon, certes, tu as peut-être moins d'espèces, et encore que c'est approuvé, j'en sais rien, mais surtout, ça paraît être un peu plus facile parce que les animaux sont plus habitués à l'homme, tu le vois comme ça?
Oui, tout à fait. Ils sont plus habitués à l'homme, ils ont une source de nourriture du coup qui n'est pas du tout adaptée à eux. Et d'ailleurs, c'est un de mes sujets de prédilection, le nourrissage des oiseaux d'eau et des animaux en général. C'est quelque chose d'important pour moi parce que c'est très très nocif pour eux. Malgré les panneaux de sensibilisation, il n'y a rien à faire, les gens continuent. Mais avec ça, en fait, ils ne sont pas farouches, ils sont proches de l'homme. Et donc du coup, on peut peut-être dire que les photos sont plus faciles à faire en milieu urbain à cause de ça. Mais ça permet aussi de sensibiliser à la faune citadine, parce qu'effectivement, les photos sont peut-être faciles à réaliser, mais grâce à ça, on peut aussi dire aux personnes que c'est pas bien de nourrir les oiseaux, parce que ça a plein de conséquences désastreuses. Donc encore une fois, j'ai envie de lier la photographie à mon engagement pour la cause animale.
Donc finalement, on revient au côté parole de Léa, c'est t'as une parole qui est celle-ci, non mais voilà, et donc tu veux la faire connaître, la photographie, c'est un des moyens de promouvoir ta parole, et on revient là-dessus, c'est hyper logique. Est-ce que les stratégies de photographie pour les animaux de ville sont les mêmes? Ce que je veux dire, c'est que voilà, à la campagne, tu te mets en affût, tu te déguises, pour ceux qui ne savent pas trop la photographie animalière, c'est soit on se met en affût, on se cache dans une mini cabane, dans une tente, voilà, et on attend que l'animal passe vers nous, ou alors on est plus actif et on va se déguiser avec des gros guillemets, hein. Mais voilà, on va mettre des habits très neutres, de coloris nature, type randonnée, et puis on se fout un peu dans le décor et puis on avance un peu en mode indien. Est-ce que tu fais ça aussi, même si voilà dans ton parc urbain, est-ce que tu vas t'habiller pareil, la même façon? Est-ce que tu vas t'approcher de la même façon? Ou c'est vraiment tout à fait une autre stratégie et tu te mets plutôt en mode, un passant, un promeneur lambda, juste que tu as un appareil photo en plus, quoi.
En fait, je vais éviter, bien sûr, le dérangement comme à la campagne. On ne fait pas du tout d'affût sur Paris. D'ailleurs, les gens nous regarderaient très bizarrement, je pense.
Si
on se mettait en tenue de camouflage dans les parcs, il y a beaucoup trop de monde. Alors, il faudrait le faire tôt le matin ou dormir dans le parc sans que personne ne le sache. Mais non, c'est vraiment des approches sans dérangement. Même si c'est très dur de pas déranger un animal. Hein. De façon générale, on le dérange toujours un petit peu. Mais voilà, ça va être une approche douce, avec respect, à distance de l'animal. Mais c'est différent de la campagne, bien entendu.
Ouais, et les habitudes des animaux sont pareilles. Je veux dire, encore une fois, ça dépend de l'animal, évidemment. Hein, chaque animal, chaque espèce a ses habitudes, évidemment, son rythme de vie. Et parmi les espèces, on voit aussi parfois des individus qui ont aussi des rythmes de vie différents, alors qu'ils appartiennent à la même espèce. Mais en gros, malgré tout, quand même, on sait qu'il y a des habitudes animalières un peu, comment dire, un peu général, tu vois, en campagne, allez, les animaux sont plutôt actifs en fin de journée, la nuit et en début de journée, pile quand les hommes sont plus là, sauf des animaux qui ont des rythmes de vie un peu particuliers. Mais est-ce qu'en ville c'est pareil? Est-ce qu'il faut se lever très tôt le matin? Est-ce qu'il faut aussi en profiter le soir quand tout le monde va au lit? Ben la photographe va aussi en profiter. Est-ce que c'est à peu près les mêmes grands principes?
J'ai pas vraiment vu les mêmes principes parce que j'ai l'impression qu'ils sont actifs tout le temps dans les parcs parisiens. On voit vraiment régulièrement des oiseaux, enfin, en pleine journée. Après, les mammifères, c'est vraiment autre chose, hein. Sur Paris, ils sont quand même difficiles à voir. C'est comme à la campagne. Ils ont leur propre rythme, ce qui est normal et heureusement pour eux. Après, quand on fait de la photo sur Paris, c'est bien quand même de le faire tôt le matin ou en fin de journée quand il y a moins de monde. Parce qu'en fait, quand on est avec un appareil photo, dans un parc parisien, ça ramène du monde, beaucoup trop de monde.
Des spectateurs qui viennent voir ce que vous faites, voilà. Ce que fait le photographe. En gros, voilà. Tu demandes, tu fais quoi, c'est ça?
Oui, voilà, qu'est-ce que vous photographiez? Alors, c'est des gens très bienveillants, qui sont très gentils. Mais quand tu as 10 personnes qui commencent à être autour de toi ou de l'animal que tu souhaites photographier, tu te dis, bon, il y a quand même un certain dérangement pour l'oiseau. Donc, stop. Là, par contre, quand il y a trop de monde, je m'écarte. Voilà, j'ai pas envie de déranger l'animal, surtout pas.
Donc c'est des contraintes, c'est une contrainte supplémentaire. Finalement, la contrainte elle viendrait plus, des êtres humains. Encore une fois, finalement, on en retrouve la même chose. Hein, c'est toujours les hommes, enfin les humains plutôt que les hommes, les humains qui posent souci, que évidemment que l'animal directement. Tu quand je vois tes photographies là, je les ai sous les yeux en fait, hein, sur ton compte, et moi je les trouve juste, il y a des portraits qui sont magnifique, c'est très beau, c'est très doux, j'ai envie de dire c'est très féminin dans les couleurs, c'est vraiment très 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 chouette, j'aime beaucoup ce genre de photographie pastel, presque un peu vaporeuse parfois, c'est très très agréable à regarder. Alors je vais, comment dire, être un peu volontairement provocateur, les animaux que tu photographies sont évidemment ceux, ben, la plupart du temps de parc urbain parce que c'est ton lieu d'action. Est-ce que c'est pas des fois un peu frustrant de photographier, et je mets des gros guillemets parce que pour moi, peu importe l'animal, il est au même niveau que n'importe quel autre animal, et nous, êtres humains compris. Est-ce que c'est pas un peu frustrant quand même de photographier, allez, je mets des gros guillemets, mais juste un écureuil, juste un petit hamster, mais un peu urbain, enfin tu vois, qui est là parce qu'en gros un jour un autre être humain l'a laissé, l'a abandonné, quoi, tu vois. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de photographier juste des canards alors que, bon voilà, il y a dans l'imaginaire collectif, je sais pas, un rapace c'est peut-être plus noble, un renard c'est plus noble, tu vois. Est-ce que toi, ça te frustre pas un peu?
Alors oui, alors j'aime pas du tout le spécisme et j'essaie de me détacher de ça vraiment parce que pour moi, tous les animaux doivent être à la même hauteur. En fait, on devrait avoir le même respect pour chacun d'eux, que ce soit un rat, un pigeon, que ce soit un renard, un cerf, peu importe. Pour moi, ils ont le droit de vivre et on ne devrait pas dire lui, il a plus de mérite qu'un autre. Enfin bref. Donc pour moi, oui, ça peut être frustrant parfois de voir toujours les mêmes espèces, puisqu'on aimerait en voir d'autres. Après, moi, ça me permet aussi de sensibiliser à la faune citadine, encore une fois, hein, sur le nourrissage des oiseaux, sur les espèces qui sont mal aimées, comme le pigeon, hein, qui souffre énormément à cause de l'homme, et ça, c'est juste terrible, parce que je suis amoureuse des pigeons, comme beaucoup de gens, finalement, qui aiment les animaux. Hein. Chez Faunalfort, par exemple, on est tous amoureux des pigeons. Donc voilà, c'est pas frustrant. Moi j'aime bien parce que ça me permet de sensibiliser à tous ces animaux qui sont finalement mal connus, mal aimés et que les personnes n'ont pas envie de photographier finalement. Après, par exemple, quand je vais en vacances, récemment j'étais dans le Jura, j'ai vu des chamois que j'ai pu photographier, donc ça fait très plaisir aussi de découvrir d'autres espèces, de faire connaissance avec d'autres animaux. Voilà, donc j'aime photographier tous les animaux, j'aime quand j'en vois de nouveaux aussi, apprendre à les connaître, à connaître un peu leurs habitudes, leurs comportements.
On va aller un peu plus sur le côté peut-être photographique, tu vois, en tant que tel. Déjà, comment tu as appris la photographie? Par quel moyen tu t'es formé à cet art-là?
Alors en fait, ça fait assez longtemps que j'avais un appareil photo, le Canon 100D. Avec un 18-135, c'était un pack que j'avais demandé pour Noël il y a assez longtemps, il y a plusieurs années de ça. Donc je faisais des paysages, du portrait, je faisais pas vraiment d'animalier, je prenais en photo ce que j'avais envie pendant les vacances. Puis un jour j'ai un petit peu arrêté et il y a peut-être 2 ans, j'ai repris l'appareil photo. J'ai pris un petit rouge-gorge, un héron, des écureuils. Je m'en souviens encore d'un matin, le 25 décembre, où avec ma mère, on s'est levé à 5 heures du matin, le jour de Noël, pour aller en forêt, en banlieue parisienne, photographier des animaux. Et donc là, j'avais encore un appareil photo pas du tout adapté à l'animalier, ce qui est assez frustrant. Et petit à petit, je me suis renseignée sur Internet. J'ai voulu un objectif animalier. Donc là, actuellement, j'ai le 100-400 de chez Canon, en version professionnelle, qui est juste extraordinaire. J'ai investi ensuite dans un boîtier, qui est le 5D Mark IV, pour monter un peu plus en ISO, parce que les animaux, il faut quand même monter assez en ISO. Surtout quand on veut photographier tôt le matin ou tardivement, quoi, en fin de journée. Donc petit à petit, je me suis renseignée sur Internet, sur la photographie, sur ce qu'on appelle le triangle, la vitesse, la lumière, l'ouverture, voilà. Ouais. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. J'ai mis du temps à comprendre. J'ai été voir plein d'articles sur plein de sites. Je m'en sortais pas. Puis au bout d'un moment, j'ai compris. J'ai testé sur le terrain. Et maintenant, je sais m'adapter à chaque situation. Je sais paramétrer rapidement mon appareil pour prendre un animal dans une certaine situation. Même si parfois j'oublie encore de régler mon appareil et je loupe des oiseaux, comme la maison Juppé que j'avais vue pour la première fois dans le Jura et que j'ai loupé à cause de ça.
Mais en fait, c'est ça qui est, je trouve, quelque part un peu piégeux dans les comptes Instagram de tous les photographes, hein, parce qu'on ne montre, et c'est le but évidemment, on ne montre que les photographies réussies. C'est logique, si on montre que des photographies ratées, quelque part on tape à côté de la plaque, parce que ces photographies qui sont pas jolies, quoi, forcément, donc on peut pas les montrer.
Mais ça pourrait être marrant de les montrer.
Ah, mais un compte, on pourrait finalement, tu vois, ça pourrait être un challenge. Chaque photographe qui a un compte Instagram pourrait avoir un deuxième compte, un compte de fail, tu vois, les gros ratés.
Ouais, oui,
ça pourrait être intéressant. Et je note également, tu vois, une vraie évolution dans ton style photo, dans l'ambiance générale, donc quelque chose d'assez doux. Alors qu'avant, si on fouille un peu plus dans ton fil d'Insta et qu'on remonte un peu dans le temps, c'est pas du tout la même chose. Comment tu en es venu à ce style-là? C'est quelque chose que tu as recherché?
Ça m'est venu un peu naturellement, on va dire. Déjà, quand j'ai changé d'appareil, j'ai changé aussi un petit peu mes photos. Puisqu'avant, avec un 18-135, les photos, c'était pas du tout adapté à l'animalier. C'était aussi une autre qualité. C'était pas du tout un appareil professionnel. C'était amateur. Donc, déjà, on dit que l'appareil fait pas tout, mais ça fait quand même un petit peu les choses. Ça aide.
Ne serait-ce que le flou d'arrière-plan, par exemple, avec un 100-400, effectivement. Et ton réflexe est un plein format ou pas, du coup, parce que je connais pas bien la gamme Canon. C'est un plein format.
C'est ça, c'est un plein format. Et avant, j'étais en APS-C en plus.
Donc plein format, 100-400. Effectivement, tu as des flous d'arrière et d'avant-plan qui vont être très marqués, ce qui donne aussi, qui concourt à donner cette ambiance douce, justement, grâce à ce bokeh qui est vraiment magnifique dans tes photographies.
J'ai essayé de trouver un peu ma patte, on va dire, d'avoir un petit style qui diffère. Après, avec mon conjoint qui fait aussi de la photo, on s'inspire aussi l'un de l'autre parfois. On va dire qu'on se copie un peu les styles, mais sans vraiment le vouloir. C'est parce que on fait beaucoup de sorties photo ensemble. Donc parfois, on va se cacher derrière un buisson, on va se cacher derrière un rocher. Donc du coup, ça va donner aussi un petit flou d'avant-plan qui va donner un petit côté artistique à la photo. Donc voilà, on va s'inspirer l'un et l'autre, on va essayer d'imaginer plein de choses. Et ce qui est bien aussi dans la faune citadine, c'est que comme elle est assez accessible, on peut aussi s'amuser en photo, prendre le temps de faire plusieurs cadrages. Et on va dire qu'il reste quand même, je dis que c'est assez accessible la photo en milieu urbain, mais par exemple, les passereaux, ça reste quand même très compliqué. On en voit plus qu'à la campagne, sûrement, mais ça reste compliqué, ils sont quand même très peureux et voilà. Même, il y a plein d'oiseaux, par exemple les pics verts, on lève le doigt, il est déjà parti à l'autre bout du parc.
Ça reste un pic vert.
Ça reste un pic vert, voilà. En fait, c'est très compliqué, il faut quand même prendre le temps, mais je pense que peut-être dans les parcs, on prend plus le temps de faire des photos artistiques. Comme si, par exemple, on était en affût, qu'on connaissait bien le terrain, qu'on voulait cette photo-là à cet endroit, enfin, cet animal à cet endroit-là. Il y a des choses qui se ressemblent entre la campagne et le milieu urbain, on va dire.
Disons que c'est un peu... Allez. Un peu l'état d'esprit macro où autour d'une petite fleur ou autour d'un insecte qui bouge pas beaucoup, on va pouvoir tourner, prendre le temps et réfléchir à différents points de vue. C'est pas toujours le cas avec des animaux de type oiseaux ou mammifères, évidemment, même Mais il y a un peu cet esprit-là qui peut jouer. On va aller un petit peu sur le côté business mm-hmm. photo, parce que ça fait partie également de ce que tu fais. Voilà, on va sur ton site, hein, paroledeleafotographie.fr. Alors là, par contre, tu as rajouté photographie, hein, oui. paroledeleafotographie.fr.
Mais ça, il y a une raison, c'est parce que mon blog littéraire d'il y a quelques années qui s'appelle paroledeleafotographie.wordpress.com, je n'ai plus le mot de passe, je ne peux plus faire mot de passe oublié, donc c'est un blog qui n'est plus accessible. Donc, j'ai dû rajouter photographie.
Tu es un peu reparti de zéro, finalement, quoi, même complètement.
Voilà, c'est ça.
Et tu as rajouté photographie. Donc, on va sur ton site internet. Mm-hmm. Et là, on va aussi sur ta bio Insta, hein, vente de tirage, voilà. Et donc, tu as un onglet boutique. La première question que je voudrais poser par rapport à ça, est-ce que ça a été difficile pour toi, ou facile, je ne sais pas, hein, je ne vais pas entendre ta réponse, de créer cet onglet boutique? Parce que tu vois, boutique, argent, commerce, business, voilà, ce sont des mots qui sont souvent perçus comme étant un peu incompatibles avec la photographie. Toi, mm-hmm. comment tu t'es sentie par rapport à ça?
Non, à l'aise.
À l'aise.
Non, j'ai pas eu de difficulté à poser le mot boutique. Après, je me suis interrogée sur le mot à mettre. Boutique, shop, vente, je ne savais pas trop comment l'appeler, on va dire. Mais je me suis dit, j'avais vu boutique sur certains sites internet, je me suis dit, bon, allez, je vais mettre ça, on va tester. Puis après, moi, comme je fais mes études dans le digital, c'est des notions avec qui j'ai déjà, comment dire. Je ne sais pas comment expliquer.
Ouais. Il y a un côté un peu anglo-saxon, en fait, je pense, dans tes études. Hein. Clairement, un côté marketing, business, community manager, déjà des termes assez anglais. Dans tes cours, tu as dû, je pense, un petit peu toucher du doigt cet état d'esprit anglo-saxon qui est assez décomplexé, on le sait, hein, par rapport au business, au commerce et à l'argent, quoi, en règle générale.
Oui, tout à fait. En fait, j'étais vraiment à l'aise avec ce terme, avec le fait de vendre. Je sais que la photographie, c'est très, très concurrentiel. Beaucoup de personnes veulent en vivre. C'est compliqué pour certaines personnes. D'ailleurs, en général, c'est aussi un complément à son métier principal. C'est ce que je voulais, hein, à la base, que ce soit un complément. Mais avec le licenciement, j'ai envie vraiment d'essayer de me reconvertir, tout en quand même continuant à chercher un CDI en social media. On ne sait jamais, parce qu'il faut quand même gagner sa vie. Mais voilà, j'ai pas eu de difficulté à poser ce terme boutique et à essayer de vendre mes tirages ou mes shootings photos.
Ok, donc voilà, c'est important parce que je sais qu'il y a des gens avec qui j'ai pu discuter et je sais qu'il y a des gens aussi qui nous écoutent qui ont vraiment ce côté, le commerce, c'est un peu tendu, hein, quand on essaie d'associer commerce et photographie pour plein de raisons particulières, mais c'est vrai que d'avoir eu des études comme toi dans cette thématique-là, business, commerce, ça peut effectivement carrément aider à se décomplexer par rapport à ça. Tu parlais tout à l'heure, hein, cette association de deux mots de désillusion professionnelle. C'était un déclencheur pour toi, donc tu étais salarié. Peut-être nous décrire un petit peu cette situation qui a joué quel rôle dans ton commerce de photographe?
Alors en fait, pendant que j'étais en CDI, déjà, je voulais vendre un peu mes tirages, je voulais au moins essayer. Et quand je me suis fait licencier, j'ai eu un déclic, je savais plus trop ce que je voulais faire. Mon conjoint s'était fait licencier à cause du Covid et lui aussi voulait se lancer dans la photographie, dans le business photographique, on va dire. Donc tous les deux, on a décidé de créer notre site internet et de développer ça ensemble.
Ok. Donc, deux sites différents, hein. Chacun a son site.
Oui, chacun
sa patte et tout ça, d'accord.
Ça nous a beaucoup aidé, en fait. Ça nous a motivé l'un et l'autre à se donner encore plus, on va dire. Lui, il a un côté commercial, moi, j'ai un côté plus digital. Donc, ça se complète aussi.
Ça se complète bien. Et concrètement, pour vraiment comprendre la situation, on va dire de manière très pragmatique, tu as été licencié. Et donc, en ce moment, est-ce que tu as un CDI, un autre travail à côté, ou c'est vraiment ton activité de photographe et vraiment celle dans laquelle tu te consacres à 100%?
Non, alors je recherche un CDI en parallèle et j'essaie de me consacrer à la photographie. Je passe beaucoup de temps sur mon site internet, à essayer de développer les réseaux sociaux, mais surtout le site internet avec le référencement naturel. Je vais essayer de faire un peu de publicité sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien ajouter une extension e-commerce à mon site internet pour que ce soit plus simple pour vendre des tableaux, par exemple. Et je vais essayer de démarcher aussi, par exemple, des cabinets vétérinaires pour proposer des reportages photos comme pour Faunalfort, pour valoriser l'humain. J'ai vraiment envie de me concentrer sur les animaux, que ce soit la faune sauvage ou les animaux de compagnie. C'est pour ça aussi que je propose des shootings photos animaux de compagnie. Donc du coup, j'ai déjà mes services, mes prestations, tout okay. est bien clair dans ma tête. Maintenant, il ne me manque plus que le démarchage et c'est le plus long et le plus compliqué.
Bah, c'est intéressant parce que justement, j'allais aussi aborder ce sujet-là avec toi. En gros, voilà, qu'est-ce qui est difficile quand on se lance justement là-dedans. Mais revenons un tout petit peu, si tu me mets sur le côté licenciement. C'est juste par rapport au, comment dire, à cette transition. Tu vois, c'est tout. Je sais que voilà, moi qui coach des salariés qui sont encore salariés et qui veulent justement se reconvertir dans la photographie, il y a ce fameux, cette bascule, tu vois. Est-ce qu'on la fait vite? Est-ce qu'on la fait pas vite? Est-ce que pendant longtemps, on fait ce fameux side project, ce côté parallèle, tu vois, en étant toujours salarié, ou est-ce qu'on arrête tout d'un coup pour se consacrer à 100% son travail de photographe? Toi, avec le recul maintenant, tu as de l'expérience aussi par rapport à ça, tu as vécu un licenciement, tu as lancé ta boutique. Voilà, quelle est ton expérience et surtout, quelle leçon tu peux en tirer sur ce moment de bascule un peu important?
Alors, sur ce moment de bascule, on va dire que petit à petit, j'essaie de me consacrer à la photographie, de me donner un gros coup de pied aux fesses, de me motiver, ouais. parce que c'est pas facile tous les jours. Faut vraiment être motivé et vivre de la photo, bah, c'est pas quelque chose de facile, parce que comme je disais, c'est très très concurrentiel. Donc voilà, j'essaie de me motiver au quotidien, j'ai mes proches aussi qui m'aident à me fixer des objectifs, un petit peu, parce que bon, bah, parfois on se lève le matin, on n'a pas la motivation, et pourtant il faut. Donc là, ça fait quand même quelques mois que j'essaie de développer l'activité de photo, mais parfois bah, j'ai des pauses parce que j'y arrive plus trop, je sais plus trop comment faire. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même compliqué, qui peut être aussi stressant parce qu'au final, bah, bon, j'ai quand même droit au chômage, ce qui peut aussi m'aider. Et ça reste quand même compliqué parce qu'avec un loyer parisien
ah oui.
et le peu de chômage que j'ai par rapport au salaire que j'avais avant, ça reste quand même compliqué parce que ça, y a quand même une énorme baisse. C'est pour ça que je disais, il faut que je mette un gros coup de pied aux fesses pour quand même pouvoir vivre un minimum de ma... enfin, vivre un minimum, quoi, ce qui est normal.
Tu t'es dit, ok, je fais des photographies, donc je vais les vendre. Je sais photographier, donc je vais vendre mes services de photographe, donc des sessions de shooting, shooting d'animaux de compagnie, shooting portrait. C'est, en gros, l'idée derrière la question que je vais te poser, c'est comment tu as fait ce choix-là, tu vois, de faire du proposer des services de portrait, proposer des services de shooting photo animaux de compagnie.
Bah, c'est un vrai choix du cœur, on va dire, parce que déjà en photo, c'est important de se diversifier. Je ne pourrais pas vivre de la vente de mes tirages. Hein. C'est impossible, surtout que je fais des tirages illimités, c'est même pas des tirages d'art. Donc du coup, c'est relativement abordable. Donc du coup, il faut se diversifier, proposer d'autres choses. C'est pour ça que je propose aussi des reportages photos, que ce soit pour des cabinets vétérinaires ou autres entreprises, des petits indépendants, des artisans. Je trouve que c'est important de montrer leur savoir-faire. Et des shootings photos animaux de compagnie, bon, parce que bah, je suis amoureuse des animaux, que ce soit de compagnie ou la faune sauvage, donc ça peut être aussi un bon complément. Et mine de rien, il y a moins de concurrence pour les animaux de compagnie. Il y en a, certes, mais beaucoup moins que pour les humains.
Est-ce que du coup, le fait d'habiter dans une... Alors, je parle de Paris, mais tu seras à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, je veux dire, une grande ville, voire très grande ville, ça peut être un avantage, peut-être non, de manière assez intuitive comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de toi. Je veux dire, je sais pas, à 2 km², c'est des dizaines de milliers de personnes et donc potentiellement des dizaines de milliers d'animaux de compagnie. Est-ce que finalement, il y a un côté aussi logique derrière en termes de marché, hein, voilà. Ben voilà, t'es à Paris, il y a du monde, donc il y a beaucoup d'animaux de compagnie. Ça a aussi été pour toi, je sais pas, comment dire, un choix aussi de la raison, tu vois, marketingement parlant, ça?
Non, même pas. Après, je me suis dit, oui, forcément, dans une grande ville, il y a forcément plus de clients, plus de monde, mais aussi plus de concurrence. Mais après, je pense que le bouche-à-oreille, ça marche très, très bien.
Ouais. Et tu en bénéficies de ce bouche-à-oreille-là?
C'est grâce à une amie qui a eu un petit chien, un beagle, et du coup, elle va dans les parcs canins. En région parisienne, et elle a parlé de moi à des amis. Du coup, il y a une amie à elle qui m'a pris un shooting, qui a adoré le shooting, et du coup, elle m'a fait sa pub. Du coup, j'ai 2 nouveaux shootings photos bientôt. Et donc, grâce à une personne, j'arrive déjà à avoir 3 shootings photos, sans avoir démarché, hein, juste en parlant à une amie.
Ok, donc la relation dans la vraie vie, on va en parler hein, de façon dont tu te fais connaître avec tes réseaux, avec ton blog, parce que tu fais des articles également, donc tu parlais de référencement naturel, ça fait partie des stratégies commerciales numériques, et c'est très puissant, je pas dire qu'il faut faire ça, mais en tout cas, c'est un très bon moyen de se faire connaître. Et là, tu viens de parler de choses, comment dire, physiques, dans la vraie vie, et ça fonctionne, donc le fameux bouche à oreille. d'aller un petit peu au charbon, tu vois, dans la vraie vie, c'est quelque chose qui peut marcher pour toi et pour la plupart des photographes aussi, d'ailleurs, tu vois, de faire un démarchage à l'ancienne, quoi, tu vois, rentrer dans une boutique. Bonjour, voilà, je suis photographe et je peux vous proposer mes services pour vous aider à mettre en valeur vos produits, vos services, je sais pas quoi. C'est quelque chose que tu peux développer toi aussi de ton côté, ça ?
Oui, c'est ce que je compte faire également. En fait, je pense qu'il faut vraiment y aller au culot. Mais vraiment, hein, parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, c'est bien, ça donne de la visibilité. Mais je trouve que finalement, si on n'est pas très connu, ça marche pas trop. Ou alors, il faut mettre beaucoup d'argent. En tant que community manager, je sais que sur les réseaux sociaux, pour être accepté par l'algorithme, il faut dépenser des fortunes. Voilà, c'est très compliqué d'avoir un budget optimisé.
On va se propulser, on va demander à Facebook et Instagram et tout ça. En gros, on les paye pour qu'ils nous mettent en avant artificiellement sur le réseau, quoi.
C'est ça. Ça encore, ça peut marcher. Mais je pense que rien ne vaut le bouche à oreille. Si des amis nous recommandent, on a envie d'écouter son ami, on a envie d'écouter sa famille, on voit les photos et je pense que le bouche à oreille, ça marche très bien parce qu'on a confiance en la personne qui nous conseille en fait ce photographe.
Ce qu'on appelle des prescripteurs, hein, clairement. Hein,
mais voilà, bah, tout à fait. C'est de bons ambassadeurs. Je pense qu'il faut capitaliser sur ses amis, sur sa famille, se créer un gros réseau comme sur LinkedIn par exemple. Le réseau, c'est quelque chose qui marche énormément. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais François Lasserre, qui est assez reconnu dans le milieu animalier, notamment sur les insectes. Il est auteur, conférencier, insectologue.
Oui, exact.
J'ai travaillé avec lui, en fait, parce qu'il était professeur dans une entreprise où je travaillais. Et c'est lui qui m'a dit, il faut se faire un réseau, un gros réseau. Et lui, il a un énorme réseau, il connaît beaucoup, beaucoup de monde. Et j'ai écouté ses conseils, il m'a donné plein de conseils et je lui en suis tellement reconnaissante parce que j'ai beaucoup avancé grâce à lui. Encore une nouvelle personne qui m'a aidée dans mon cheminement professionnel, on va dire. Je ne sais même plus pourquoi j'abordais ça. Je me suis perdue dans ma réflexion.
Si, c'était par rapport au fait de se construire un réseau, de se faire connaître, hein, y aller au culot,
voilà,
tout ça.
Ouais. Y aller au culot, ne pas hésiter à aller voir les gens, à leur demander de l'aide. Alors dire qu'avec le bouche à oreille, c'est tellement important. Et puis au final, c'est quand on se lance, c'est aussi un beau projet de reconversion. Les personnes, elles sont fières de t'aider. Et je pense qu'elles aimeraient qu'on fasse pareil pour elles également.
Ouais,
et pareil, pour aller dans les boutiques, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Plutôt que d'envoyer un mail ou d'appeler, rien ne vaut le contact physique. Je ne suis pas forcément à l'aise à l'oral, mais le fait d'aller démarcher un cabinet vétérinaire, par exemple, ou une petite boutique indépendante qui voudrait qu'on valorise ses produits, je pense que d'aller la voir, lui parler, lui donner la carte de visite, lui montrer un petit book photo, imprimer ses photos sur un petit book assez quali et lui montrer, ça peut aussi bien marcher.
Tu abordes un point super, super important et qui est celui d'avoir de manière hyper claire dans sa tête, mais le connaître par cœur, c'est vraiment mot pour mot, quoi, hein, un peu comme on apprendrait un poème, finalement, de connaître sa promesse et de jamais improviser, finalement. Quand tu dis il faut avoir du culot, et c'est le cas, il faut aller au charbon, moi j'aime bien dire ça, il faut aller au turbin, il faut y aller à fond, mais ne pas y aller n'importe comment, évidemment. À moi, on peut être très à l'aise et avoir ce côté... J'ai envie de dire Bernard Tapie, voilà, mais on n'a pas tout ce talent-là. Mais du coup, c'est vrai que d'avoir en tête son discours commercial, c'est pas hyper sexy dit comme ça, mais d'avoir sa promesse, tu vois, moi j'aime bien dire, d'avoir une espèce de triptyque dans sa promesse, en quelques mots, c'est de dire pourquoi tu le fais, à qui tu t'adresses, ce que tu promets et comment tu vas le livrer, tu vois. Et quand tu as déjà ces trois choses-là, à qui tu t'adresses, ce que tu promets et comment tu vas le livrer, tu la prends par cœur, ça te fait ton court pitch qui fait quelques mots, quoi. Et je trouve que ça, déjà, c'est hyper rassurant parce que, voilà, toi, tu l'as dit, pas très à l'aise. Moi, je suis pas forcément très à l'aise non plus, hein, quand il faut aller comme ça, connaître la personne pas du tout. Tu rentres dans la boutique, c'est compliqué. Mais par contre, on va se retrancher, on va se rassurer sur sa promesse qui est hyper connue dans son esprit, on l'a vraiment en tête. Et puis après, pareil, on se fait un petit pitch un peu plus long. Dans lequel on va être aussi très très clair, très au fait, et on sera pas pris au dépourvu. Mais ça se prépare, hein, clairement, ça se prévoit, ça se prépare, ça s'écrit, hein, ça s'apprend par cœur. Et puis le fait de l'écrire des fois, ça nous permet également de mûrir le projet, de mûrir sa réflexion, de mûrir son discours. Donc on a tout à gagner à l'écrire vraiment noir sur blanc pour après l'apprendre par cœur et après en parler et vraiment le réciter vraiment aux personnes devant qui on est, quoi.
Et je pense qu'on peut tomber sur de très belles personnes qui seront à l'écoute. Je pense qu'il faut pas aborder la question de l'argent tout de suite parce que ça peut frustrer, ça peut être cher, il peut avoir des freins, c'est l'argent, donc l'argent c'est un frein en règle générale. Donc quand on rentre dans une boutique ou un cabinet ou peu importe, c'est vraiment, comme tu le disais, parler de la promesse, parler de notre valeur ajoutée, on va dire, avant de parler budget.
Ouais.
Ça, je pense que ça doit venir après.
Il y a quelque chose de très important également dans le commerce. Alors là, je me fais un peu en mode prof, hein. Mais non, mais voilà, c'est que, mais comment on aborde ces sujets-là, et du coup, il vient à l'esprit. Quand on pense tout de suite à vendre ses photographies ou ses prestations, il y a beaucoup de gens, moi, qui me disent « Ah, mais je ne sais pas me vendre et je ne suis pas à l'aise avec la vente. » Un très, très bon moyen de se mettre à l'aise par rapport à ça, c'est tout de suite d'essayer de comprendre ce que veut la personne en face et de ne pas commencer à se mettre en mode, tu sais, commercial, agressif. On a toute cette image-là un peu d'épinal du commercial, de voiture ou du vendeur de tapis qui va dire « Mon tapis, c'est le plus beau, ma voiture, c'est la plus belle, c'est la plus puissante. » En fait, c'est un très mauvais moyen de commencer à vendre parce qu'on parle déjà, on parle tout de suite de soi. On ne prend pas en compte la vie de la personne en face. Donc, entre un vendeur, nous, photographe et la personne en face qui est donc le futur client, la personne la plus importante, c'est pas nous, c'est le futur client, quoi. Tu vois, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a, de quoi il a besoin. Donc d'abord comprendre ce qu'il lui faut lui, et puis donc on active la conversation, puis comme ça après on peut effectivement aller un peu plus sur son terrain à soi et proposer ses propres services. Tu vends tes tirages photos, tu vends tes prestations de shooting photo, également tu parlais de reportage. Ça fait des choses assez différentes, on est toujours dans la thématique photographie, mais des choses assez différentes. Est-ce que tu n'as pas peur un tout petit peu de... Parce que c'est un petit peu souvent ce que j'ai aussi comme remarque, tu vois, de t'éparpiller. Parce que c'est pas, finalement, ce n'est pas les mêmes clients entre celui qui veut se faire shooter, celui qui veut acheter tes photographies, celui qui va t'acheter ton reportage. Ce n'est pas les mêmes clients. Toi, en tant que commercial, comment tu gères ces pôles, ces différents pôles, pour pas un peu te perdre ton temps, d'être efficace?
Alors, pour l'instant, je ne gère pas vraiment les trois de façon distincte. Les shootings photos animaux de compagnie, par exemple, pour l'instant, ça va être le bouche à oreille. Je vais bientôt faire de la publicité un peu sur les réseaux sociaux. Je vais mettre un tout petit budget, mais je pense pas que ça va être trop efficace.
Donc, un budget local? Ça va être un budget local. C'est-à-dire que tu vas demander à la plateforme Facebook, particulièrement, de dire, tu montres la pub qu'aux personnes qui habitent dans un tel rayon, quoi. D'accord.
Voilà. Île-de-France. Je vais essayer de cibler un peu les personnes qui aiment les animaux, la nature. Ouais. Qu'on reste dans ma thématique quand même. Pour les tirages photos, c'est pareil. En fait, cibler les personnes qui aiment les animaux, cibler les personnes qui sont abonnées à des associations, telles que L214, 30 millions d'amis. Donc voilà, c'est faire un ciblage bien, bien précis. Puis après, je compte toujours sur le bouche à oreille. Pour les reportages photos, ça va être démarché directement. J'avais pensé, je sais pas, moi, aux hôpitaux privés, parce que je ne suis pas sûre que dans le public, on puisse vendre des tirages, questions d'hygiène ou quelque chose comme ça. Les psychologues, les docteurs pour leur salle d'attente, les kinés, en fait, il y a tellement, tellement de personnes à prospecter. C'est juste énorme.
Ouais, il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que du coup, la difficulté, c'est ce qu'on appelle dans le marketing, c'est le piège de l'objet brillant. C'est-à-dire qu'en gros, dès que tu vois un truc qui brille, tu as envie d'y aller, tu vois. Donc,
il ne faut pas s'éparpiller, c'est sûr.
Et exactement, ouais, la difficulté, c'est pas de s'éparpiller. Mais je pense, tu parlais effectivement des photographies dans les cabinets médicaux, notamment ceux des cabinets dentaires. C'est les bienfaits de la photographie animalière et de nature sur l'état d'apaisement psychologique, psychique des personnes qui sont dans ces cabinets-là. La photographie a un vrai pouvoir. Donc effectivement, il y a peut-être des choses à faire aussi là-dedans. Il y a un marché.
Il y a forcément un marché. Il faut trouver les bonnes personnes.
Bien sûr.
Et pour parler d'apaisement aussi, il y a l'art-thérapie. J'ai une amie qui travaille chez Emmaüs qui m'avait proposé, donc là le projet, bon, il faudrait qu'elle m'en reparle, mais il y avait un projet d'organiser des ateliers chez Emmaüs, d'art-thérapie en lien avec la photographie.
Ouais.
Donc, j'avais parlé avec elle de ça. Donc, en fait, il y a encore une autre possibilité, c'est d'animer carrément des ateliers en rapport avec la photo et avec mes photos pour voir ce que les personnes en face, ça leur procure comme émotion. Donc, je trouve ça juste génial.
Ouais, et c'est vrai que quand on est comme ça, comme toi, hein, et comme beaucoup là, dans cette phase de lancement où il y a plein de choses, on est hyper motivé, il y a plein de possibilités. Donc oui, bien sûr qu'il y a ce risque-là de s'éparpiller. Et en même temps, ça peut être aussi une force, mais en tout cas, un bon moyen de trouver ce qui t'intéresse. Parce que c'est vrai que si dès le départ, on est hyper focus sur un truc très précis, tu vois, très hyper ciblé, peut-être qu'on prend le risque, justement, à l'inverse, de passer à côté d'opportunités. Alors que quand on va voir plein de choses, on peut faire des rencontres, justement, qui peuvent orienter et qui peuvent par effet boule de neige, tu vois, voilà, te faire découvrir d'autres univers et te donner, ah, cette fois-ci, peut-être la vraie belle opportunité.
Et je voulais revenir vers quelque chose que tu avais dit par rapport au fait de ne pas s'éparpiller, d'avoir, par exemple, peut-être une cible sur chaque prestation que je propose. Mais au final, je pense qu'on peut retrouver la même cible sur les trois. Par exemple, quelqu'un qui est intéressé par un shooting photo animaux de compagnie peut très bien être intéressé par un tirage photo, par exemple sur des petits animaux tout mignons pour la chambre d'enfant, pour un autre portrait dans le salon. Et peut-être que cette personne, elle aura quelqu'un de sa famille qui a une entreprise qui voudra un reportage photo. Donc au final, je me dis que même sur un service, en fait, sur mes trois services, bah, il peut avoir la même cible, on va dire.
Ouais, complètement. Et puis ça, après, c'est ce qu'on appelle tout simplement... augmenter le panier moyen, tout simplement. mais voilà, après, on entre vraiment dans du, j'ai envie de dire, du vrai commerce, mais c'est aussi passionnant parce que, et voilà, c'est, comment dire, encore une fois, un bon moyen de se dédouaner de cet aspect vente qui, des fois, peut mettre mal à l'aise et faire un peu peur et mettre, et un peu embêter les gens, tu vois, ce moment de friction, c'est de se dire que nous, photographes, on a une expertise, quelle qu'elle soit. À côté de ça, il y a des gens qui ont besoin de cette expertise-là, qui ne l'ont pas et qui la veulent pour eux, eh bien, sinon, on peut leur apporter, eh bien, apportons-leur. Après, bien sûr, on se fait payer pour ça, il n'y a aucun problème avec ça.
On doit vivre de notre passion, en fait.
Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui sont prêts à payer, hein. Il y a des gens qui sont prêts à payer. Il faut pas s'en priver, évidemment. Quand on a 3500 abonnés, followers sur Instagram comme toi, avec une communauté hyper active, hyper engagée. Je regarde, il suffit de voir un petit peu les nombres de commentaires que tu as, le nombre de likes que tu as versus ton nombre d'abonnés. C'est, il y a un excellent ratio. Donc, franchement, c'est très, 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 très bon. Ça ne suffit pas pour pouvoir vivre de ta passion, hein.
Ça suffit pas. Non, parce qu'en fait, 3500 abonnés, c'est pas assez sur Instagram parce que déjà, l'algorithme n'envoie pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas actif sur Instagram, tout le monde ne voit pas les publications, tout le monde ne voit pas les stories, très très peu d'ailleurs. Hein. Sur 3500 abonnés, parfois mon max doit être 600 vues.
Ouais.
Et parfois, si on fait juste du repartage ou des petites choses où on ne met pas de sondage ou de quiz, on tombe vite à 200-300 vues. Ouais. Donc au final, sur 3000 personnes, pour moi, ça ne rapporte pas en fait. Ça fait de la visibilité, de la notoriété, mais c'est compliqué si on ne paye pas.
Ok, donc... Pour toi, Instagram, c'est nécessaire pour justement montrer que tu sais faire, montrer ton expertise, ta notoriété, tu l'as dit. Pareil pour te développer un réseau, mais en revanche, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas ce qui te permet de vendre directement tes tirages, quoi.
Ça m'est déjà arrivé de vendre deux tirages sur Instagram, des tirages en bois, donc c'est super cool. Hein. Quelqu'un qui est venu vers moi en me disant... Enfin, j'avais fait une story, il m'a dit « Ah, tu vends des tirages, je ne savais pas, je suis intéressée ». Il m'en a pris deux, j'étais super contente. Mais c'est pas ça, on vit pas de ça en fait.
Ouais.
Donc c'est compliqué.
Ok, donc du coup, allez, peut-être finir là-dessus. Pour toi, Instagram, parce que tous les photographes ont un compte Instagram pendant la plupart. Alors, comment tu le définis? En gros, Instagram te sert à quoi?
Ça me sert à gagner de la visibilité et de la notoriété, on va dire. Ce qui est super, c'est comme tu le disais, j'ai une communauté qui est super proche de moi. Je suis super contente parce que j'ai pas mal de retours, que ce soit en privé ou en commentaire, donc je trouve ça génial. Et après, c'est des personnes avec qui on échange, que l'on rencontre, donc ça fait aussi augmenter le réseau. Et on a de super belles rencontres, des personnes qui deviennent des amis même, donc c'est super chouette.
Ouais.
Mais pour l'instant, je peux pas vivre de mon compte Instagram.
D'accord, donc adopter en complément, c'est même plus qu'en complément, c'est une stratégie différente que de se reposer uniquement sur Instagram, et c'est intéressant d'avoir ton point de vue et ton expérience par rapport à ça.
Je pense qu'il faut être complémentaire aussi avec Facebook, parce que tout le monde n'a pas Instagram, mais il y a aussi, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur Facebook, et ça reste quand même le réseau social numéro 1 des community managers, donc on a envie de dire que Facebook, ça marche toujours. Facebook, LinkedIn, pour le réseau, se faire un gros réseau sur LinkedIn. Donc voilà, en fait, c'est être complémentaire sur plusieurs réseaux sociaux qui ciblent aussi différentes personnes. Bien faire son référencement sur son site internet, c'est tellement important.
Aussi, bien sûr que Google puisse te retrouver quand les gens font des recherches particulières, que ton blog, ton site puisse être remonté dans les premiers résultats, évidemment. Ça fait partie aussi d'une autre stratégie. Hein.
D'où mon blog aussi.
Ouais, exactement. Écoute, Léa, je te remercie infiniment de t'être prêtée au jeu de toutes ces questions.
Merci beaucoup.
Et c'était très intéressant d'avoir ton... Voilà, ton de connaître te connaître, connaître ton parcours, de connaître ton et aussi ton comment dire tes projets de reconversion. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Léa.
Merci beaucoup, Régis, pour ton temps, cette étape.
Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour le prochain rapidement. D'ici là, portez-vous bien, faites des photos qui vous plaisent et n'oubliez pas, passer à l'action est le meilleur moyen d'avoir des résultats.